Bonjour à tous. Alors, dans quelques jours, plus précisément le 24 et le 25 avril, Madagascar va accueillir le 5e sommet des chefs d'État de la Commission de l'Océan Indien. À cette occasion, donc le président français, Emmanuel Macron, entre autres, président, sera présent à Madagascar parce que l'île de la Réunion, qui est un département français, fait partie de cette commission de l'océan Indien. Alors, vous le savez peut-être, mais je pense que vous ne le savez peut-être pas, mais la capitale de Madagascar est classée parmi les villes les plus sales du monde, dans les trois plus sales, je pense, dans le monde. Alors, c'est pas une fierté, hein, pour une fois qu'on est dans le top 3. C'est un top 3 bien malheureux. Eh bien, en fait, à l'approche de ce sommet international, il y a en ce moment même un grand nettoyage qui est en train d'être fait. Donc, on déloge les sans-abri pour les mettre en périphérie. On mobilise la population pour passer un coup de savon, même dans les tunnels. C'est véridique, hein, j'ai vu des photos la semaine dernière. On bouche les gros nids de poules de la chaussée en toute hâte et on nettoie les rues. On les nettoie des ordures ménagères qui, souvent en temps normal, en fait, débordent largement sur la rue. En fait, c'est comme une sorte d'hypocrisie, sans vouloir faire de politique, une hypocrisie de la part des autorités qui, pendant longtemps, laissent dépérir la ville et qui, à l'approche de cet événement, va vite faire en 3-4 semaines ce qui n'a pas été fait pendant des mois, voire des années. Alors, chez les Malgaches, on a une expression qui qualifie ça et qui dit que c'est comme si on mettait des beaux habits par-dessus sa peau sale, comme si on se mettait sur son 31 alors qu'on a pris sa dernière douche le 15. Et arrivé, en fait, au jour fatidique du 25 avril, tous les chefs d'État invités seront accueillis en grande pompe dans une ville qui ne ressemblera pas du tout à ce qu'elle était 3 semaines avant. Donc ils se verront dérouler le tapis rouge, car c'est là l'honneur qui leur est dû, qu'on leur doit, et c'est tout à fait légitime. Mais on sait bien que derrière tout l'apparat se cache en fait une réalité de misère extrême et de pauvreté extrême aussi. Alors je vous donne ce court fait d'actualité pour donner un exemple de contexte un peu actualisé concernant l'accueil d'un haut dignitaire de nos jours. Alors je suis content aujourd'hui parce que Myriam a lancé des manteaux. Et moi, j'aime beaucoup les images. Je suis resté un enfant là-dessus. Quand il y a une présentation comme ça qui est faite avec des images, j'apprécie beaucoup. Et le fait qu'il y ait les manteaux par terre va illustrer notre texte d'aujourd'hui. Donc, je vous propose maintenant de lire notre texte. Nous continuons notre série sur l'évangile de Marc. Et nous arrivons aujourd'hui au chapitre 11 qui traite, comme Myriam l'a dit tout à l'heure ce matin, qui traite de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Donc nous sommes aujourd'hui exactement à une semaine de Pâques, et notre texte d'aujourd'hui se déroule aussi exactement le dimanche précédent Pâques, et précédant la résurrection de Christ. Alors je soupçonne Michael d'avoir légèrement arrangé ça. Même pas ? D'accord, ok. Donc c'est une glorieuse coïncidence. Comment ? Exactement. Alors sans attendre, je vais lire donc Marc, j'ai oublié mon téléphone. Donc je vais lire Marc, chapitre 11, les versets 1 à 25, et je lirai dans la version du semeur. Alors qu'ils approchaient de Jérusalem, à la hauteur de Bethphagée et de Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant « Allez dans le village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le ici. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin et il le renverra très bientôt. » Ils partirent donc, trouvèrent un ânon attaché dehors, près d'une porte de la rue, dans la rue, et le détachèrent. Quelques personnes qui se trouvaient là leur dirent « Holà, qu'est-ce qui vous prend de détacher cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus le leur avait ordonné, et on les laissa faire. Ils amenèrent l'ânon à Jésus et posèrent leur manteau sur son dos. Et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leur manteau sur le chemin, d'autres des branches vertes coupées dans les champs. La foule, de la tête à la fin du cortège, criait « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le royaume qui vient, le royaume de David, notre Père. Hosanna à Dieu, au plus haut des cieux. » Une fois entré dans Jérusalem, Jésus se rendit au temple et y observa attentivement tout ce qui s'y passait. Ensuite, comme il se faisait déjà tard, il quitta la ville avec les 12 pour se rendre à Béthanie. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie avec eux, il eut faim. Il aperçut de loin un figuier couvert de feuillage. Il se dirigea vers cet arbre pour voir s'il y trouverait quelques fruits. Quand il se fut approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. S'adressant alors au figuier, il lui dit « Que plus jamais personne ne mange de fruits venant de toi. » Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem. Jésus entra dans la cour du temple et se mit à en chasser les marchands qui s'étaient installés dans l'enceinte sacrée, ainsi que leurs clients. Il renversa les comptoirs des changeurs d'argent, ainsi que les chaises des marchands de pigeons. Il ne laissa personne transporter des marchandises dans l'enceinte du temple. Puis, s'adressant à tous, il les enseigna en disant « N'est-il pas écrit « On appellera ma maison une maison de prière pour tous les peuples, mais vous, vous en avez fait une caverne de brigands. » Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi apprirent ce qui s'était passé et ils cherchèrent un moyen de le faire mourir. En effet, ils craignèrent son influence, car son enseignement faisait une vive impression sur la foule. Le soir venu, Jésus et ses disciples quittèrent la ville. Le lendemain matin, en passant par là, ils virent le figuier. Il avait séché jusqu'aux racines. Pierre, se souvenant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Maître, regarde le figuier que tu as maudit. Il est devenu tout sec. » Jésus répondit, « Ayez foi en Dieu. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, « Soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. C'est pourquoi, je vous le déclare, tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui pour que votre Père céleste vous pardonne, lui aussi, vos fautes. » Alors, à travers ce passage qu'on vient de lire, nous allons essayer de nous rappeler qui est réellement Jésus. Et je vous propose également de nous questionner également sur ce que Jésus représente pour nous de manière personnelle. Qui est-il de manière générale? Qui est-il pour moi personnellement? Alors, tout d'abord, je vais donner quelques éléments de contexte immédiat. Alors, ce récit est rapporté dans les quatre évangiles. Alors, si vous voulez le lire plus tard, les textes parallèles se trouvent dans Matthieu 21, Luc 19 et Jean chapitre 12. Donc, Jésus ici va entrer dans Jérusalem. Donc, il est suivi par ses disciples, donc ses plus proches disciples, les 12. Mais il semblerait aussi qu'il soit précédé par de nombreuses personnes qui le suivaient jusque-là, et qui sont aussi des disciples à part entière. On peut dire qu'il y a un certain revirement de situation dans notre texte. En fait, jusque-là, Jésus est resté discret pendant son ministère. Auparavant, il disait « Mon heure n'est pas encore venue » ou encore « Va et ne le dis à personne » lorsqu'on le sollicitait ou lorsqu'il avait opéré un miracle. Il va aussi éviter les endroits où la foule s'attroupait et il ne cherchait pas à attirer l'attention plus que ça avant l'heure. Mais ici, il va faire route vers Jérusalem et il va faire une entrée publique. Il va y entrer publiquement. Cette fois-ci, il ne va pas faire un chemin de détour. Il ne va pas éviter la foule. Il va y aller frontalement. En fait, il entame ici la fin de son ministère et va passer une semaine qui va être éprouvante. Et cette semaine va le mener à la crucifixion 5 jours plus tard. Là, on inaugure ce qu'on appelle communément la passion de Christ, qui va le mener à sa mort. Alors, on remarque que Jésus va entrer publiquement dans Jérusalem, mais pas n'importe comment. En fait, il va demander à deux de ses disciples d'aller chercher un ânon. Donc, l'ânon, c'est le petit de l'âne, qui est dans un village voisin. Il va décrire les circonstances exactes aux deux disciples, et ça va se passer exactement comme il l'annoncera. Ils trouveront un ânon. Les gens vont interpeller les disciples, mais ils vont tout simplement accepter de laisser partir l'animal sans plus de discussion, sans négociation. Pour entrer dans le vif du sujet, voici en fait qui est réellement Jésus. Jésus est quelqu'un qui a autorité sur le temps. Il a autorité sur le temps, plus précisément sur l'accomplissement d'une prophétie qui a été écrite 500 ans avant lui, par Zacharie, un peu plus de 500 ans. Dans Zacharie chapitre 9, verset 9, il est écrit « Tressaille d'allégresse, ô communauté de Sion, pousse des cris de joie, ô communauté de Jérusalem, car ton roi vient vers toi, il est juste et sauvé, humilié, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Il a aussi autorité sur le temps, dans le sens où il va annoncer aux deux disciples, où ce qu'il va annoncer aux deux disciples sera exactement ce qui va se dérouler. Ils vont trouver l'animal, ils vont être interpellés par les gens qui sont là, mais on les laissera partir. Il l'a annoncé, ça s'est passé exactement comme ce qu'il avait dit. Deuxièmement, c'est un homme qui a une autorité sur la création. L'âne, en fait, est réputé pour être un animal qui peut être difficile. Il me semble que David, tu avais fait un tournage avec un âne et j'ai vu quelques images où tu avais des difficultés pour le faire bouger. Il me semble, pour le faire rentrer dans un camion, quelque chose comme ça. Et en fait, l'ânon dans notre texte, qui est un animal qui n'a jamais été monté et donc jamais dressé, s'est montré tout à fait docile. Il s'est montré tout à fait maniable, comme s'il avait été éduqué et préparé pour ce moment depuis toujours. Alors, nous pouvons trouver d'autres exemples de la totale maîtrise de Jésus sur la création, lorsque, par exemple, il opère à deux reprises une pêche miraculeuse pour ses disciples sur le lac de Tibériade, ou encore lorsqu'il fait griller du poisson sur le bord du lac sans qu'il n'ait pêché ce poisson. Incompréhensible, mais possible pour Jésus. On peut citer d'autres exemples aussi de maîtrise. Il a calmé la tempête, il a marché sur l'eau, il a changé l'eau en vin, il a multiplié des pains, il a multiplié des poissons, etc. Et un peu plus tard dans notre récit, il va assécher un arbre par sa seule parole, une maîtrise et une autorité sur la création. Une maîtrise et une totale autorité. Jésus va donc ensuite aller à Dodane vers la ville. Alors les Dodane de nos jours sont très désagréables, mais il semble que Jésus n'ait pas eu à se plaindre par rapport au fait d'avoir été sur le dos de cet âne dans notre récit. À l'approche de la ville, donc la foule étend des vêtements sur son passage, donc comme ce qui a été illustré ce matin, et aussi des branches vertes. Alors à la lecture de ce passage, c'est quelque chose qui peut nous sembler un peu étrange, mais comme Myriam l'a dit ce matin, on peut faire un parallèle ici avec notre époque, avec le tapis rouge qu'on déroule devant les personnes. Et le tapis rouge qu'on va dérouler d'ailleurs à Madagascar, comme dans l'histoire de mon introduction. Les branches ici, ils pourraient être des branches de palmiers, selon certains commentateurs, peut-être les mêmes qui sont utilisées lors de la fête juive du tabernacle ou fête des cabanes, et qui étaient jetées partout dans la ville, de Jérusalem, en commémoration joyeuse de la providence divine de Dieu lors de l'Exode. Donc ils prenaient des branches et les lançaient dans la ville. En fait, par ce geste, la foule accueille à la fois un haut dignitaire, un roi, par ses vêtements, mais aussi un dieu, par ses branches. Ensuite, la foule va crier au passage de Jésus, « Hosanna ! » Alors, « Hosanna », ça veut dire littéralement « Sauve-nous maintenant !»« Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le royaume qui vient, le royaume de David, notre Père. » Par ces acclamations, la foule reconnaît donc en Jésus un sauveur. Qui est réellement Jésus ? Jésus est un roi. Jésus est Dieu. Jésus est le sauveur. Mais il y a comme un hic, quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas en fait réellement d'adéquation entre le fond et la forme. C'est un roi, il est Dieu, il sauve, mais il est sur le dos d'un âne. Il n'a pas l'apparence d'un conquérant. Il ne vient pas tel un chevalier monté sur son cheval. Il n'a pas l'apparence d'un guerrier vaillant, prêt à anéantir l'oppresseur romain, comme certains l'auraient peut-être espéré. Non. En fait, il va venir de manière très très humble. Michael avait lu ce passage un peu plus tôt dans l'évangile de Marc, « Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Alors qui est réellement Jésus ? Jésus est un roi, oui, mais c'est un roi serviteur. Il est Dieu, il maîtrise le temps, il maîtrise la création, il maîtrise les éléments et il maîtrise les événements. Il est venu pour sauver d'une oppression qui est plus forte que l'oppression des Romains. Il est venu nous sauver de l'oppression du péché. Et les jours qui vont suivre vont être à la fois terribles et merveilleux. Terribles parce que, en acceptant de venir à Jérusalem à ce moment, il va subir tour à tour l'injustice, l'humiliation, la souffrance extrême, l'abandon, la torture et ultimement la mort. Mais ce sera aussi merveilleux parce qu'il va accomplir un salut parfait. Il va vaincre la mort et il ressuscitera. Et il vivra à jamais. En fait, Jésus, il aurait pu ne pas aller à Jérusalem. Il aurait pu rester tranquillement ailleurs. Il aurait pu fuir. Il aurait pu éviter le danger. Mais il est venu accomplir le plan de Dieu. Et le plan de Dieu devait passer par ses souffrances. Alors maintenant qu'on a vu qui était réellement Jésus, on peut se poser maintenant la question, mais qui est Jésus pour moi ? Qui est Jésus ? Qui est personnellement Jésus pour toi ? Dans le récit qu'on a lu, on a ces deux passages qui semblent être très peu reliés à première vue. Le passage du figuier et celui des marchands dans le temple. Alors voyons tout d'abord le passage sur le figuier. Donc Jésus a faim, quoi de plus normal, et il voit un figuier. Il s'approche de ce figuier, mais remarque que l'arbre n'a aucun fruit. Il va donc le maudire, et ce figuier va sécher. Alors selon le récit parallèle dans Matthieu dira que le figuier s'est asséché instantanément. Dans notre récit, c'est plutôt le lendemain qu'il se rend compte du fait qu'il est séché. Sauf que il y a aussi un problème. Marc ici va préciser que ce n'était pas la saison des figues. Curieux. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que Jésus va maudire un figuier qui n'a pas de fruits alors même que ce n'est pas encore la saison ? Est-ce que Jésus aurait quelques sautes d'humeur au point de ne plus savoir ce qu'il fait ? Non. En fait, ces figuiers, en hors-saison, lorsque les feuilles apparaissent, portent normalement des fruits printaniers qui sont légèrement différents des fruits en pleine saison. Donc un figuier feuillu, mais sans figues printanières, qui sont plus petites, ne produira aucun fruit lors de sa pleine saison. Donc Jésus sait pertinemment que cet arbre ne sert plus à rien. Et il va le maudire et l'assécher. Alors les commentateurs disent que, par cet épisode, Jésus voulait mettre en garde les Israélites, qui ont une religiosité légaliste, sans avoir une réelle foi. Ces personnes confessent Dieu, confessent suivre Dieu, mais ne portent aucun fruit. Et au jour du jugement, Dieu ne fera aucun compromis et il jettera ceux qui n'ont pas une foi sincère au feu de l'enfer. Jésus dira dans Matthieu 7, « Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur, il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. » Jésus veut faire comprendre à ses disciples ici que ceux qui ne portent pas de fruits n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Non pas que le fruit sauve, mais que le fait de porter du fruit témoigne d'une réelle conversion par la foi. On pourrait en quelque sorte coller des figues sur un pommier, les attacher, mais ça n'en fera jamais un figuier. On pourrait donc avoir l'apparence de quelqu'un de religieux sans pour autant avoir une réelle foi. Je vais vous faire quelques mots de témoignage personnel. Vers l'âge de 12-13 ans, à Madagascar, lorsque j'ai assisté à une réunion d'ados, j'y assistais alors que je ne voulais pas, on m'a posé une question très directe. Depuis quand es-tu chrétien ? Alors, après quelques secondes de réflexion, la bouche ouverte, j'ai répondu, je ne sais pas. Mais je m'étais dit, en fait, intérieurement, et toi qui me poses la question, là, est-ce que tu sais que je suis le fils du pasteur, le pasteur de l'église dans laquelle tu vas ? Comment est-ce que tu oses poser une question aussi débile ? Et tout ça, je le pensais avec l'insolence qu'on reconnaît aux ados, hein, n'est-ce pas, pour ceux qui ont des ados. Mais j'étais un peu trop lâche pour dire tout ça frontalement. Alors j'ai juste dit ces phrases dans ma tête, la bouche ouverte, et j'ai répondu, je sais pas. J'avais pas cette voix. Hein. Mais en fait, ça a nourri ma réflexion, un peu plus tard. J'allais à l'église, j'étais plutôt agréable, j'étais poli, j'étais courtois, j'ai jamais rien fait de mal. Est-ce que ça fait de moi un chrétien ? Eh bien non, malheureusement. Mais j'étais bien trop arrogant pour le reconnaître à ce moment-là. Alors peut-être que les personnes qui ont grandi dans des familles chrétiennes, et a fortiori les enfants de pasteurs, se retrouveront dans cet épisode que j'ai vécu et dans ces réflexions que j'ai pu avoir. Non, être fils de pasteur, aller à l'église et faire bien les choses comme il faut ne fait pas de moi un chrétien. Les Israélites, les spécialistes de la loi, les pharisiens de l'époque, ils paraissent bons sous tout rapport. Mais à plusieurs reprises, en fait, ils vont nier la seigneurie de Jésus. Ils sont tellement bornés dans leur religiosité qu'ils sont aveuglés et ne voient pas la foi qui leur manque. Par la suite, Jésus va aller au temple. Il va voir des marchands. Alors, remettons-nous dans le contexte. Donc, la Pâque, ou Pessah, arrive bientôt et Jérusalem va être remplie de pèlerins dont certains viennent de très très loin. Et ils viennent pour faire une offrande sacrificielle à Dieu avec des animaux. Certains des agneaux, certains des bœufs, certains des oiseaux. Et comme beaucoup viennent de loin, ils ne vont pas apporter des animaux avec eux, mais ils vont les acheter sur place. En parallèle de ça, ils devaient aussi payer une somme au temple, mais non pas avec la monnaie romaine, mais avec une autre monnaie, d'où la présence ici d'agents de change qui prenaient aussi, bien sûr, au passage, une commission. Alors, tout comme aujourd'hui, ça n'a pas vraiment changé, la loi de l'offre et de la demande régnait déjà. Qui dit fête de la Pâque, dit pèlerin en grand nombre, qui dit pèlerin en nombre, dit augmentation des acheteurs potentiels et dit augmentation des prix. C'est l'inflation avant l'heure. Qui dit augmentation des prix dit affaire juteuse. Donc les marchands ici, en fait, ils ne sont ni plus ni moins que des opportunistes. Ils ne sont pas là pour la fête de Pâques, mais ils sont là pour l'appât du gain. Et qui plus est, ils établissent leur commerce directement dans la cour du temple. Et là, Jésus va se mettre en colère et va chasser ces marchands. Ces marchands et ces agents de change. En quelque sorte, voilà ce qu'il dénonce. Il dénonce la corruption. Il ne critique pas juste la présence des marchands, il critique aussi le fait qu'il y ait abus, qu'il y ait tricherie, qui est exploitation des pauvres, avec des prix exagérés et des commissions injustes. Il dénonce la profanation du sacré. Ces commerces se faisaient dans les parvis des païens, c'est-à-dire l'endroit qui était censé être ouvert à toutes les nations pour prier. Et résultat, le lieu de prière devenait un marché. Il critique aussi le système religieux. Il s'en prend à une institution hypocrite qui est plus préoccupée par le profit que par la justice ou par la relation sincère avec Dieu. Et enfin, ce geste de Jésus n'est pas juste un coup de colère, un coup d'éclat. En fait, c'est un acte qui est aussi prophétique. Il va annoncer par là le jugement du temple qui sera détruit quelques décennies plus tard, en 70, par les Romains. Et il annonce aussi la fin du rituel sacrificiel, puisque lui va effectuer le sacrifice ultime, une fois pour toutes. Alors ces marchands dans ce temple pourraient symboliser dans nos vies actuelles, modernes, tous les compromis que nous faisons dans nos vies. cet opportunisme parfois que nous pouvons avoir. Je vais à l'église pour me faire bien voir. Je vais servir pour montrer que je suis un bon chrétien, une bonne chrétienne. Je vais donner énormément de ma personne. Je vais donner de mon temps. Je vais donner aussi peut-être de mon argent pour montrer aux autres, montrer à Dieu et me prouver à moi-même qu'en fait, je sors un peu du lot. Ou alors, même plus grave, je vais voir si je ne pourrais pas profiter un peu de la naïveté de ces personnes de l'Église pour en tirer profit. Alors je grossis le trait, bien sûr, n'y voyez rien de méprisant. Mais faisons attention à nos motivations et à nos intentions. Alors pour conclure, je vous laisse ces quelques réflexions sous forme de questions qui vont résumer un peu notre passage et le partage d'aujourd'hui. Suis-je conscient de qui est réellement Jésus ? Suis-je conscient de ce qu'il a fait pour moi ? Est-ce que je l'ai reconnu comme sauveur et comme Seigneur ? Est-ce que je fais partie de cette foule qui crie « Hosanna » ou plutôt de cette autre foule qui va crier « Crucifiez-le » quelques jours plus tard ? Est-ce que je donne toute la gloire qui est due à Dieu ? Est-ce que je suis celui qui l'accueille et qui le suit ? Ou est-ce que je suis celui qui le condamne, qui le fuit, qui le nie et qui lui crache dessus ? Est-ce que finalement je ne serai pas ce figuier sans fruit ou cet opportuniste du temple ? Mes chers amis, que le Seigneur ouvre nos cœurs pour que nous puissions aller dans la bonne voie. Et dans la semaine qui suit notre récit d'aujourd'hui, Jésus va traverser une période terrible. Et nous, où nous nous plaçons vis-à-vis de ces événements ? La bonne nouvelle, c'est que si on se sent être du mauvais côté aujourd'hui, Jésus, lui, nous attend du bon côté. Il nous offre encore l'opportunité aujourd'hui de nous tourner vers lui plutôt que de lui tourner le dos. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous là où nous en sommes, dans notre marche avec lui. Je vais prier.